Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Deltombe, donc t'es essayiste et éditeur et auteur du livre L'Afrique d'abord sur François Mitterrand.
Bonjour.
Bonjour. Et Joseph, donc qui fait partie de l'association Survisère et vous organisez ce soir une conférence avec Thomas. Donc, bonjour à toi, Joseph.
Bonjour.
Et donc, ton livre, il parle de François Mitterrand, qui a été connu pour être le premier président de gauche. Et donc, dans ce livre, tu démontes un peu l'image d'un Mitterrand décolonisateur en t'intéressant au lui des années 50, donc pendant la 4e République. Donc, je te laisse tout d'abord un peu compléter mes propos, si je me suis trompée ou... oui, juste pour compléter.
Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, François Mitterrand, c'est quelqu'un dont on connaît au moins le nom. On sait qu'effectivement, ça a été le premier président non de droite, peut-être qu'on pourrait dire, de 1981 à 1995. C'est un personnage qui est assez connu ou qu'on croit assez bien connaître. On connaît assez bien maintenant sa jeunesse. On a parlé de son engagement à Vichy, le fait qu'il a eu la Francisque en 1943. On connaît assez bien, c'est ce qu'on connaît le mieux évidemment, c'est sa période de président, hein, les 14 ans à l'Élysée, de septennat. On connaît moins le milieu. Et moi, c'est justement là-dessus que j'ai travaillé, notamment la première période du milieu, qui est sa première carrière politique en fait, de ministre sous la 4e République. On l'a un peu oublié parce qu'elle a été occultée par sa carrière ultérieure, mais on l'a aussi un peu oublié parce qu'il y a peut-être un peu des choses à cacher dans cette période, notamment son engagement colonial, voire colonialiste. Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant pas mal de temps. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle donc L'Afrique d'abord, qui est c'est le titre du livre que j'emprunte en fait à François Mitterrand. C'est une expression qu'il a utilisée à l'époque. Et le sous-titre, c'est « Quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français » pour bien montrer qu'il était du côté des colonialistes, alors que ensuite... quand il est devenu un homme de gauche, disons, il a essayé de revendiquer, il s'est revendiqué, disons, de l'anticolonialisme. Et je montre que il y a là une mystification qui mérite quand même d'être un petit peu travaillée.
Oui, tout à fait. Et donc, ce soir, tu vas parler de ça, justement, à la conférence qui a lieu à Grenoble, à la Maison internationale. Donc, c'est organisé par l'association Survie. Donc, je vais un peu aussi laisser la parole à Joseph. Est-ce que tu peux nous présenter l'association, ses actions, ce que vous faites un peu à Survie Isère ?
Donc, Survie, c'est une association nationale, déjà, qui existe déjà depuis les années 80. Qui est, à la base était une association qui était pour voter une loi pour le développement, pour l'aide au développement dans les pays d'Afrique, pour que les enfants africains ne meurent plus de faim, d'où le nom de l'association qu'on a parfois du mal à comprendre aujourd'hui. Et au fur et à mesure, l'association s'est politisée, notamment en 1994, donc sous le mandat de Mitterrand d'ailleurs, avec le génocide des Tutsis au Rwanda, où les gens de l'association Survie avaient documenté le risque de génocide qu'il y avait déjà avant le génocide. Et ce génocide s'est déroulé avec donc, l'appui de la France à un état génocidaire. Donc les gens de l'association Survie ont vécu ça en direct et l'ont documenté. Et l'association, au fur et à mesure, s'est de plus en plus aussi renseignée, a fait un travail d'enquête sur l'aide au développement et donc sur plus largement les relations entre la France et ses anciennes colonies, en voyant que les indépendances qui avaient été concédées, c'était vraiment une façade et que la France gardait par plein d'aspects différents la main sur les aspects vraiment stratégiques au niveau économique, au niveau militaire, au niveau de la monnaie, sur ses anciennes colonies. Et donc, depuis ces années-là, l'association continue de documenter, d'essayer de faire connaître ce qu'on appelait donc la France-Afrique. Donc, cette mainmise qui est gardée par la France sur ses anciennes colonies et autour aussi dans d'autres pays africains. Et nous, donc, à Survie Isère, on est l'antenne locale de l'association Survie. On est un petit groupe de militants, on n'est pas très nombreux, même au niveau national, Survie, c'est une petite association. Et au niveau local à Grenoble, donc on organise régulièrement, au moins une fois par mois, des événements qu'on appelle les mardis contre la France-Afrique, le deuxième mardi de chaque mois. Et occasionnellement, donc différents événements, comme ce soir, la venue de Thomas Deltombe.
Oui, et je crois que c'est tous les deuxièmes mardis du mois. Non, je ne sais plus du tout les événements que vous organisez.
Oui, les mardis contre la France-Afrique, ouais. C'est le deuxième mardi de chaque mois. Sauf que... On a un peu perdu nos repères en ce moment parce qu'on a différents événements qui se sont passés juste avant ou juste après et on a du mal à maintenir cette date exacte. Donc là, je n'annonce pas les prochains parce que ça sera pas dès mardi.
Ok, voilà. Ça marche. Bah, tu nous diras toutes ces dates à la fin. Et donc, tu as parlé du terme de France-Afrique. Donc, je voulais vous demander à vous deux, qu'est-ce qui vous évoque ce terme et comment vous le définiriez
Bah en fait, l'association Survie est centrale. En fait, c'est une association extrêmement importante historiquement parce que c'est l'association qui a documenté la première, en fait, enfin, qui a documenté ce concept de France-Afrique et ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les mécanismes de mainmise perpétuée, disons, de la France sur ses anciennes colonies, comme disait Joseph, et qui montre aussi, ce qui est intéressant, c'est que surtout en ce moment, on dit souvent, bon, ça y est, c'est fini, quoi, la présence de la France en Afrique, c'est terminé, c'est la fin, etc. Or, l'association Survie et les chercheurs qui travaillent, parce qu'il y a plein de chercheurs et de chercheuses dans l'association Survie, ont montré que la France-Afrique, c'était un système qui n'avait cessé d'évoluer, en fait. Qui a une longue histoire. Le mot France-Afrique, ça, c'est un truc que j'avais découvert pour un précédent livre, est apparu en 1945. Et il décrit un système, effectivement, perpétué de tutelle française sur des pays africains. Mais cette tutelle, elle a changé de forme au fur et à mesure. Donc moi, dans le bouquin là, sur Mitterrand, je travaille sur la naissance de la France-Afrique, quand ce mot apparaît, en quoi Mitterrand a joué un rôle absolument crucial dans l'émergence de ce système. Mais ce système, il s'est perpétué après Mitterrand, avec De Gaulle, avec Pompidou, avec Giscard d'Estaing, à nouveau avec Mitterrand, hein, et ensuite après avec d'autres, Chirac, Sarkozy, Hollande et même Macron, qui a essayé de replâtrer la France-Afrique comme ses prédécesseurs, et puis qui là se retrouve dans des processus qu'il a du mal à maîtriser. Alors, à la fois, la France tente de maintenir son influence, comme on dit maintenant, on parle d'influence sur le continent africain. En même temps, elle est confrontée à des résistances que certaines qualifient aujourd'hui de nouvelles indépendances. Alors justement, c'est là qu'on est dans des thématiques très, très chaudes d'actualité parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que la France continue à avoir des intérêts extrêmement forts en Afrique, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou autres, vraiment des intérêts prépondérant, des alliés sur place extrêmement puissants, hein, comme Ouattara, le président de Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, ou Paul Biya, le président du Cameroun, hein, qui est président depuis 1982, qui est arrivé dans les valises de Mitterrand en 82. Donc c'est pas une histoire qui est terminée. Ces gens-là sont toujours là. Ce système continue d'exister et continue de se transformer pour se perpétuer. Bon, donc c'est de ça dont on parle. Joseph, tu veux compléter?
Non, bah c'est ça, l'association Survie, on continue de documenter ça aussi. Donc il y a différents ouvrages qui sortent assez régulièrement, soit pour faire la focale sur un aspect en particulier. Donc ça peut être sur la présence de l'armée française, sur les interventions qu'il y a eu dans le Sahel, voilà, qui sont remises aussi fortement en cause aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des ouvrages plus généraux sur justement l'évolution de la France-Afrique. C'est vrai que l'ouvrage de référence pendant longtemps, c'était La France-Afrique, donc de François-Xavier Verschave, qui datait de 1998. Et plus récemment, tu pourras me compléter par rapport au dernier bouquin, mais c'est L'Empire qui ne voulait pas mourir, qui a vraiment fait la somme, justement, thématique par thématique, pour avoir vraiment un tour d'horizon de tous les moyens par lesquels la France reste présente en Afrique et garde son pouvoir, en fait.
Sur ces deux livres, ce que tu disais, Survie publie ce qu'ils appellent les dossiers noirs. Et donc, par exemple, le dernier, il a un titre qui est très bien et qui indique très bien, à mon avis, le type de processus dans lequel on est. Ça s'appelle « De l'huile sur le feu ». Et ça parle justement de la présence militaire française en Afrique. Et ça explique assez bien que, sous prétexte d'éteindre un incendie, en l'occurrence le djihadisme, et ben, en fait, la France a jeté de l'huile sur le feu et en a rajouté. Et c'est ça qui crée un certain nombre de tensions qu'il y a aujourd'hui. Pour ce qui concerne le deuxième livre, là, je suis plus directement concerné parce que j'ai été un des co-directeurs du livre, donc c'est L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui est sortie en 2000. J'ai déjà perdu 23, bref, il n'y a pas si longtemps.
Récemment.
Et là, le but, c'était précisément de prendre la suite de François-Xavier Verschave, qui était un des anciens présidents de l'association Survie et qui avait fait un premier travail en fait, de défrichage quand même sur la France-Afrique il y a plus de 25 ans. Et nous, on s'était dit, mais alors plusieurs cette fois-ci, c'est-à-dire on est une vingtaine à avoir travaillé sur ce livre, on a essayé de documenter ce que c'était la France-Afrique avec les nouvelles documentations, l'accès à des nouvelles archives qu'on a pu avoir entre-temps. Et en plus, on a travaillé avec des historiens, etc. Donc on a à la fois éclairé d'une nouvelle façon le passé dont parlait déjà François-Xavier Verschave. Et par ailleurs, comme il s'était écoulé 25 ans, on a aussi éclairé 25 ans, un quart de siècle de France-Afrique supplémentaire. Donc c'est effectivement, et c'était le but d'entrée de jeu, c'était de faire une sorte de nouvelle somme, un peu de référence sur ces questions, pour qu'on y voit plus clair. Justement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et vers quoi on va si on n'a aucune notion de ce qui s'est passé avant. Or, et je termine là-dessus, c'est vrai que ce qui est frappant quand on travaille sur ces questions-là, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens, la plupart des gens, en fait, ne connaissent rien de
ils sont pas, ils sont pas conscients, enfin.
En fait, il y a un paradoxe, c'est que j'ai l'impression que ça intéresse pas mal de gens. C'est des livres qui se vendent très bien. Il y a souvent du monde dans les rencontres. C'est des sujets qui intéressent. Sauf que le niveau de connaissance est tellement faible, pas à cause des gens, mais à cause du système éducatif, du système médiatique, qui, dans l'ensemble, parle peu de ces sujets, comme si c'était, ça ne nous concernait pas, disons, nous un peu vagues comme ça, et que de toute façon, tout ça, c'est très compliqué. Vous comprenez l'Afrique, c'est très compliqué. Faut vraiment être un expert pour s'intéresser à ces questions. Alors nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que, un, ça nous concerne directement. On est, d'une certaine façon, les premiers concernés de l'impérialisme, puisque c'est en notre nom souvent qu'il se perpétue, et que par ailleurs, c'est pas si compliqué que ça. Il y a effectivement, comme toute histoire, des complexités, mais il y a aussi des lignes de force qui sont appréhendables, et il faut les appréhender si on veut pouvoir agir aussi.
C'est beaucoup d'invisibilisation, et donc c'est votre volonté de sensibiliser à ces sujets, si on peut dire ainsi. Et donc, pour en revenir un peu aux origines de ce terme de France-Afrique, donc c'est venu un peu... François Mitterrand y a participé, entre guillemets, c'est ce que tu montres dans ton livre. Et je voulais te demander un peu, pour introduire ton livre, comment est-ce que tu as eu l'idée de ce livre ? Parce que c'est... Enfin, oui, ça m'a surprise au début.
C'est un long processus. C'est vrai que là, en préparant l'intervention, je me suis dit que cette question allait m'être posée, que j'allais y répondre en fait, d'entrée de jeu sans qu'on me la pose. Donc, je suis content que tu me la poses. Mais en fait, c'est un long processus. Moi, mon premier livre, il a 20 ans maintenant. Et c'était sur l'islamophobie dans les médias. Et en fait, je me suis rendu compte au moment de travailler sur cette question... qu'il y avait un énorme passif colonial dans les discours publics, à la télévision, dans la presse. En fait, quand on parlait d'islam, on parlait en fait de plein d'autres choses, et ça renvoyait beaucoup à l'histoire coloniale. Et ça... Donc l'idée profonde, disons, de ce type de recherche, c'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que la France se soit si mal décolonisée par rapport à elle-même et dans son rapport à ses anciennes colonies. Donc ça vient de là. Et donc après, j'ai travaillé sur différents sujets, la décolonisation du Cameroun en particulier, qui a été particulièrement violente, ensuite ce gros livre-là, L'Empire qui ne veut pas mourir. Et justement, en travaillant sur L'Empire qui ne veut pas mourir, donc dans les 5 dernières années, je me suis rendu compte que François Mitterrand avait joué un rôle majeur, en fait, central. C'est, pour moi, c'était... Comme il est très jeune, en fait, sous la 4e République, il est ministre à 30 ans. Alors on se dit, bon, ça doit être un gars qui était tout il avait un strapontin dans un ministère, etc. Mais non, en fait, pas du tout. C'était une figure centrale. C'était un des grands responsables politiques français de l'époque. Tout le monde attendait à ce qu'il soit Premier ministre, donc président du Conseil à l'époque, c'est-à-dire la fonction la plus influente de la politique française. Il allait le devenir, en fait, à la fin de la 4e République. Non seulement ça, donc un personnage beaucoup plus important que ce que la plupart des gens croient, mais par ailleurs, qu'il était totalement obnubilé par la question coloniale, et pour l'Afrique en particulier. C'est-à-dire qu'il c'était un type qui s'était passionné pour les questions coloniales, passionné pour les questions... Il a quand même écrit 2 livres en 5 ans sur le sujet, des centaines d'articles, des discours. Donc en fait, il ne parle quasiment que d'Afrique pendant 10 ans. Et donc ça aussi, ça m'a surpris. Et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'après coup, il avait beaucoup menti sur cette période. Alors je me suis dit, ça fait beaucoup, je vais aller poursuivre mes recherches. Voilà. Donc là, je me suis plongé dans les archives, archives de presse, toute une série de
donc
fonds d'archives.
Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces archives? Bah, ça a dû être un réel travail de regroupement de toutes les sources.
Là, c'est un travail. Moi, je ne suis pas historien de profession, mais quand même, depuis le temps que je fréquente les fonds d'archives, je commence à connaître quand même un certain nombre de... d'avoir une petite méthode aussi. Bon, il y a des fonds qui sont facilement identifiables, comme les archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, ou les archives nationales à Pierrefitte, ou des choses comme ça, où on trouve des choses. Et puis, alors, et après, il y a des cas spécifiques. Dans le cas de François Mitterrand, il y a l'Institut François Mitterrand. Il m'avait gentiment accueilli pendant 2 jours, donc j'avais photographié pas mal de choses. Il ne savait pas très bien sur quoi je travailler précisément, ou en tout cas dans quelle optique, donc je suis pas sûr qu'il me
manquerait. Heureusement, peut-être.
Bon, ceci dit, la personne qui m'a accueilli était très sympa et tout, hein, donc je ne vais pas faire de procès d'intention. Mais il y a d'autres fonds d'archives qui permettent aussi d'éclairer le parcours de Mitterrand. C'est pareil, des archives personnelles qui sont dans des fonds publics. Par exemple, les archives de Vincent Auriol, premier président de la 4e République, il y a des trésors qui n'ont pas beaucoup été explorés. Dans les archives de Guy Mollet, qui a été président du Conseil en 56-57, là, il y a des choses pas mal aussi. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Dans les archives de son parti, qui s'appelait l'UDSR, Union démocratique de la résistance socialiste et de la résistance, UDSR, ouais, ce qui se trouve à Sciences Po, Paris, ben, il y a plein de choses aussi. Bon, voilà, donc petit à petit, entre les lectures et la presse aussi, beaucoup, beaucoup. Ça qui est surprenant, c'est que maintenant, on a des outils formidables pour faire de l'enquête historique. Il suffit d'aller sur Gallica, il y a plein de choses en ligne, en fait. Rien que le dépouillement de la presse en ligne, via Gallica, Retro News ou autre, parce qu'il y a aussi des fonds de recherche, on trouve énormément de choses. Et ce qui est surprenant, c'est peut-être parce qu'on privilégie justement des outils numériques, les générations précédentes d'historiens ne les ont pas beaucoup exploitées, ou pas assez exploitées, disons. Et donc, on trouve plein de choses qui sautent aux yeux et qu'on peut, on peut raconter des histoires qui n'ont pas encore été vraiment racontées, quoi.
Et donc, au final, comment vous avez réussi un peu à casser ce mythe de l'homme qui a décolonisé
En fait, je dois dire que ce mythe, je l'ignorais moi-même. C'est ça qui m'a surpris, c'est que non, je découvrais en même temps la carrière coloniale de Mitterrand, en même temps que le mythe qu'il avait essayé de forger. C'est-à-dire que c'est quand j'ai commencé à me dire, tiens, quand même, Mitterrand, il a joué un rôle très important dans l'histoire coloniale, et surtout dans l'émergence de la France-Afrique et tout ça, que je me suis mis à lire ses biographes, tout ce qui avait été écrit sur lui. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais quand même, c'est bizarre. Moi, j'ai toute une série d'archives qui contredisent complètement ce que ces biographes et autres ou historiens ont raconté. Alors, je me suis dit, tiens, là, il y a quand même un problème. Et j'ai essayé de comprendre la source de ce mythe, en fait, qui se propage de livre en livre. Alors, si je vais être méchant, je pourrais citer des noms. Hein, les livres de Laure Adler, de Michel Vinocq et autres sont truffés, sur cette période-là, de choses, de mensonges, ou de choses vraiment très, très approximatives qui ressemblent à de la mystification. Donc, j'ai essayé de trouver la source de cette mystification. Et en fait, c'est Mitterrand lui-même. Ah, quelle surprise! Et je me suis rendu compte qu'à quand il est devenu un opposant, donc après la 4e République, quand il est devenu un des principaux opposants du régime gaulliste et de la droite, il s'est réinventé un passé de décolonisateur parce qu'il n'avait pas grand-chose à proposer. Il n'avait pas un passé très à gauche. Donc il a fallu qu'il cherche dans son passé des choses qu'il pouvait valoriser, sur lesquelles il pouvait capitaliser pour se donner une image de gauche. Donc voilà, c'est ça aussi que je raconte dans le livre. C'est non seulement l'histoire de Mitterrand, mais aussi l'histoire d'une mystification de la gauche dans son rapport à la décolonisation.
Et donc, pour cette fabrication un peu du mythe, il suffit de prendre l'exemple de Félix ou Fouette-Boigny. Donc, je vous laisse peut-être un peu expliquer comment... Donc, c'était le président du Rassemblement démocratique africain. Pareil, il s'est servi de lui un peu pour... je vous laisse expliquer
un tout petit peu complexe, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Félix Fouette-Boigny, il est connu comme Mitterrand pour sa carrière ultérieure, parce qu'il a été président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, jusqu'à sa mort donc en 1993, mais avant ça, comme Mitterrand, il avait aussi une carrière de député et de ministre sous la 4e République, en tant que député de la Côte d'Ivoire française, donc il était au Palais Bourbon, etc., etc. Je vais très vite, mais Mitterrand et Houphouët-Boigny ont fait une alliance politique à partir de 1951-52. Et en fait, c'était une alliance qui était contre l'indépendance des pays africains. Ils étaient contre l'indépendance des pays africains, pour des raisons qu'ils expliquent, mais voilà, ils étaient anticolonialistes. Sauf que, on va dire, pour aller vite, le vent de l'histoire a fait que les indépendances sont advenues. Houphouët-Boigny, jusqu'à même après l'indépendance, il était contre l'indépendance de son propre pays, hein, dont il est devenu le président. C'est quand même assez effarant. Et Mitterrand soutenait dans cette... ils étaient tous les deux contre l'indépendance. Voilà. Et, sauf qu'après coup, bah, ça fait un peu bête de dire qu'on était contre l'indépendance, puisque bon, toutes les anciennes colonies sont devenues indépendantes. Des indépendances un peu factices, des indépendances un peu en trompe-l'œil, comme disait Joseph, mais des indépendances tout de même, sur le papier en tout cas, avec des drapeaux, des hymnes nationaux et tout ce qui ressemble à une indépendance. Et donc ça devenait difficile a posteriori de dire qu'ils étaient contre l'indépendance. Donc ils ont dit, ils ont mystifié la réalité, ils ont dit « Ah non, mais nous, on a fait une alliance, et avant tous les autres, on était anticolonialistes et voilà, on a poussé vers l'émancipation de l'Afrique. » Or, quand on regarde les archives, c'est pas du tout ça, c'est une vraie mystification. Donc je vais très vite, je raconte très vite, parce que c'est quand même toute une série d'évolutions un peu subtiles, mais voilà la logique générale. Donc en fait, ce qui résulte de ce processus, en fait, c'est qu'on a une alliance entre un responsable politique français et un responsable politique ivoirien qui s'allie sur un programme assez conservateur, ou en tout cas conservatoire, le but de conserver l'Empire, quitte à changer le nom, etc. Et finalement, c'est grâce à cette alliance et tout ce qu'il y a autour que les indépendances qui vont être octroyées aux pays africains vont être des indépendances limitées, corsetées, des fausses indépendances qui, en fait, font émerger un autre phénomène qui n'est plus le colonialisme, mais le néocolonialisme. Et le travail que j'ai essayé de faire, c'est essayer de comprendre comment le néocolonialisme se donne l'apparence d'un anticolonialisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, en gros, c'est une politique d'apparence. Il y a des indépendances, mais en fait, ces indépendances, elles sont très partielles, puisque la monnaie reste contrôlée par la France, il y a des bases militaires françaises partout, il y a toute une série d'accords de coopération qui fait que la souveraineté des anciennes colonies africaines est en fait très minimale. Mais on dit que c'est une décolonisation. Alors qu'en fait, c'est un processus de néocolonisation. Et même, j'ai trouvé dans nos archives des trucs assez stupéfiants, dans lesquels on voit carrément un processus de recolonisation. C'est-à-dire que Mitterrand, à un moment donné, il dit « Moi, je suis non seulement pour la conservation de l'Empire, mais je suis pour l'expansion de la France en Afrique. » Donc, en pleine période qui, a posteriori, est décrite comme décolonisation, en réalité, il a des discours de type de conquête coloniale. Et donc là, c'est vrai que quand on l'entend a posteriori, à la télévision ou je sais pas quoi, dire « j'ai été un grand décolonisateur », c'est vrai que ça fait drôle et parfois ça fait un peu rire.
Et oui, donc en parlant justement de ce néocolonialisme, Mitterrand, comment est-ce qu'il s'en est servi ensuite pour son ascension politique ? Ou est-ce qu'il a dû s'en défaire ?
Au début, il s'en est servi. Comme je disais tout à l'heure, il avait un passé quand même de droite. Dans sa jeunesse, il avait été nationaliste, il était au Croix de Feu, mouvement de la ROC, quasiment un mouvement proto-fasciste quand même. Ensuite, il a été à Vichy. Alors ensuite, effectivement, il était dans la résistance, mais après un parcours vichiste, en fait. Ensuite de ça, il a défendu le néocolonialisme et l'émergence du néocolonialisme pendant toutes les années 50. Et donc, quand il est, par exemple, candidat à la présidence face à De Gaulle en 65, candidat unique de la gauche, bah, il se gratte un peu la tête pour justifier le fait qu'il a grillé toutes les responsables politiques de gauche en disant « Non, c'est moi le vrai responsable de gauche. » D'ailleurs, ça fait grincer énormément dedans. Les gens qui connaissent un peu son passé, notamment son passé algérien, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a participé à la répression du nationalisme algérien de façon violente et sanglante. Alors il y a des gens, qui, notamment des gens de gauche, qui disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir ce type-là pour nous représenter, nous, gens de gauche et tout ». Mais il y a une sorte de silence qui se crée autour du personnage. « Bon, mais en même temps, De Gaulle est pire, donc on se tait en fait ». Et il a réussi, par ses mystifications et par une sorte de silence un peu général de la gauche française, mais aussi par le fait des confusions mentales qu'il peut y avoir entre néocolonialisme, anticolonialisme, etc., et ben, il a réussi à faire oublier ce passé-là. Et en 81, il apparaît comme un type vraiment quasiment un tiers-mondiste pour l'émancipation des peuples, etc., etc. Bon, ça dure pendant 2 ans, mais dès au bout de quelques mois de son premier septennat, on comprend qu'en réalité, il perpétue, il le dit d'ailleurs ouvertement, hein, explicitement, qu'il va continuer la politique engagée par ses prédécesseurs Giscard d'Estaing, Pompidou, De Gaulle. Donc en réalité, il renoue avec sa politique africaine des années 50.
Oui, et c'est un grand silence, mais qui finalement, comme on l'a vu avant, a encore des conséquences aujourd'hui. Et donc, on va bientôt devoir finir, malheureusement. Mais je voulais vous demander, vous, comment vous pensez que ce néocolonialisme, il est amené à évoluer ? Enfin, Oui, je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais...
Oui, bah, on voit en ce moment, en plus, ce n'est pas tellement abordé dans les médias parce qu'il y a beaucoup d'autres questions d'actualité fortes, mais le départ de l'armée française de plusieurs pays africains, où elle était installée de longue date souvent, quand même les réactions qu'il y a eu dans les médias, je trouve qu'elles étaient assez révélatrices, c'est que souvent on considérait que c'était vraiment une perte, comme si la France avait encore son empire qu'elle devait le conserver. Ça a vraiment été vu comme une défaite par l'armée française, ça c'est sûr, mais par beaucoup de commentaires, de commentateurs même dans les médias, de droite ou de gauche, qui considèrent vraiment que c'était un échec, que la France quitte ces pays-là parce qu'on allait perdre en puissance, parce que la grandeur de la France était de moins en moins forte, quoi. Et moi, du coup, ça m'interroge pas mal, ce truc, cette notion que la France doit être grande comme si elle avait encore un empire. De fait, la France, si elle n'avait pas toute cette influence qu'elle garde encore dans les pays africains, elle aurait moins de poids à l'international, à l'ONU ou au Conseil de sécurité. Il y aurait moins d'impact dans ce que la France peut dire. Mais on est un petit pays et il faut se vivre comme ça, quoi.
Oui. Et concrètement, c'est une problématique qu'on voit très bien dans les territoires comme Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, vous organisez d'ailleurs des conférences sur ces thèmes aussi. Et donc, oui, je vais peut-être vous laisser dire un peu les prochaines dates que vous organisez avec Survie Isère.
Oui, à Survie Isère, du coup, les... Donc effectivement, depuis quelques années déjà, il y a de plus en plus d'attention portée aussi au Dom-Tom, et donc à la Kanaky Nouvelle-Calédonie, et à Mayotte qui est devenu un département français. Donc le 1er février, il y aura une soirée au 102, une soirée avec un temps d'intervention, puis quelque chose de plutôt festif et des concerts. Donc ça sera au 102 rue d'Alembert à Grenoble à partir de 18h. Et donc, la soirée sera au bénéfice d'une association pour Mayotte. Et le 7 février, il y aura une soirée aussi qui sera organisée avec la venue d'Armel Mabon, donc, qui est une historienne qui a vraiment fait connaître, qui a documenté et qui a réussi à faire émerger ce sujet du massacre de Tiaroy, donc au Sénégal, au retour de la guerre où les militaires africains avaient été enrôlés pour mener la guerre mondiale en France. Et à leur retour, ça sera décrié dans la soirée, mais il y a eu une répression qui s'est soldée par mitrailler en fait ses propres, la France coloniale a mitraillé ses propres militaires qui avaient été enrôlés. Donc Armel Mabon a documenté tout ça et viendra présenter donc le 7 février au Transfo à Grenoble à partir de 19h30. Il y aura une soirée co-organisée avec l'association des Sénégalais de l'Isère. Voilà, c'est les deux prochains événements de Survie Isère.
Très bien, eh ben, merci beaucoup. Cette émission touche déjà à sa fin, du coup on a été, on a été très large, mais merci à vous deux parce que c'est un thème, je pense, sur lequel on pourrait parler des heures et des heures. Mais merci beaucoup d'avoir accordé votre temps. Et puis, bonne conférence, Thomas.
Merci.
Je vous quitte désormais sur la musique de la campagne présidentielle de François Mitterrand, qui a été composée par Pascal Steve et qui illustre bien toute la légende qui s'est construite autour de cet homme.
Que ça peut être autrement.
Sans chômage, sans déprime.
On sait qu'il existe autre chose.
Un chemin différent.
On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons.
Avec vous, tout peut réussir.
Décidons maintenant.
oui. Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.